Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office, ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le jeudi 16 Charivar, 1402 du calendrier iranien, 7 septembre 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite notre commentaire politique. Le leader de la révolution islamique appelle la jeunesse à suivre le chemin de l'imam Hussein. Les étrangers ne résoudront pas les problèmes de l'Iran ni de la région, a déclaré le président iranien Ebrahim Raisi. L'Iran a porté un coup sérieux au réseau d'émeutiers et l'Organisation des Nations Unies a salué la normalisation des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi affirme que la présence d'étrangers en Asie occidentale n'aide pas à résoudre les problèmes des populations de la région, mais aggrave leurs problèmes et défis. Ebrahim Raisi a fait cette remarque lors d'un discours devant un grand groupe de personnes dans une ville de l'est de l'Iran. Il a ajouté que 20 ans de présence américaine en Irak et en Afghanistan n'ont eu d'autres résultats que la guerre, l'effusion de sang et le pillage de leurs richesses. Le président Raisi a noté que la présence de la République islamique d'Iran partout dans la région renforce, malgré les allégations avancées, la sécurité, tandis que la présence étrangère provoque l'insécurité et la terreur. Le président iranien a souligné qu'il était temps pour les pays étrangers de quitter la région et de laisser les pays de la région en prendre le contrôle. Il a déclaré que le retrait des étrangers était la meilleure solution aux problèmes existants dans la région du Moyen-Orient. La République islamique d'Iran affirme avoir porté un coup dur à un réseau soutenu par l'étranger qui complotait pour organiser des émeutes dans le pays. L'annonce a été faite dans une déclaration conjointe du ministère du renseignement et de l'organisation de renseignement du corps des gardiens de la révolution islamique. Le communiqué indique que le réseau s'est engagé à former des femmes pour déclencher des troubles et des tensions dans le pays. Il a ajouté que le groupe était soutenu financièrement par le département d'État américain et disposait des cours en ligne par l'intermédiaire de deux ONG basées aux États-Unis. Les membres du réseau étaient financés par le département d'État américain et dirigé par Freedom House, un soi-disant groupe de défense politique basé à Washington, et l'Initiative non violente pour la démocratie, une organisation anti-iranienne basée dans le Massachusetts, note le communiqué. L'Organisation des Nations Unies a salué l'échange d'ambassadeurs entre la République islamique d'Iran et l'Arabie saoudite et la normalisation des relations entre Téhéran et Riyad. Selon le journaliste de l'agence iranienne IRNA, Farhan Haq, porte-parole adjoint de l'Organisation des Nations Unies, réagissant à l'échange d'ambassadeurs entre l'Arabie saoudite et la République islamique d'Iran, a déclaré aux journalistes « Nous saluons toute action des deux pays visant à normaliser leurs relations, et c'est toujours un pas en avant positif. » La Russie a dénoncé le projet américain de fournir à l'Ukraine des armes contenant de l'uranium appauvri, le qualifiant de signe clair d'inhumanité. L'ambassade de Russie à Washington a déclaré que les États-Unis étaient prêts à se battre non seulement jusqu'au dernier Ukrainien, mais aussi à éliminer des générations entières. Il ajoute que les États-Unis transfèrent délibérément vers l'Ukraine des armes de frappe sans discernement, mais que l'armée russe continuerait à les détruire méthodiquement. Plus tôt mercredi, les États-Unis ont annoncé qu'il enverrait des munitions à l'uranium appauvri à Kiev dans le cadre d'une nouvelle aide à l'Ukraine. Cela fait partie d'un nouveau paquet d'armement d'une valeur pouvant atteindre $1 milliard. Il comprend également des missiles anti-chars, des obus d'artillerie et de mortiers, des systèmes de navigation aérienne tactique et des munitions pour les systèmes de défense aérienne. Les dirigeants du monde se sont réunis à Jakarta, la capitale indonésienne, pour le sommet de l'Asie de l'Est, dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine sur une multitude de questions. Le sommet de l'Asie de l'Est comprend 18 pays, dont les 10 membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ou ASEAN. Le sommet est le plus important des mécanismes centrés sur l'ASEAN dans la région Indo-Pacifique. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, le premier ministre chinois, Li Qiang, et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, sont présents, ainsi que les dirigeants du Japon, de la Corée du Sud, de l'Inde, de l'Australie et d'autres pays. De hauts responsables américains, russes et chinois se réunissent à la réunion de l'ASEAN. Mercredi, le chinois Li a mis en garde contre une nouvelle guerre froide et contre le fait que les pays prennent parti dans tout conflit. Les États-Unis et la Chine ont déjà échangé des accusations de déstabilisation de la région de l'Asie du Sud-Est. Et enfin, l'Arménie organisera des exercices militaires conjoints avec les États-Unis, malgré les inquiétudes des pays de la région, dont la Russie. Le département d'État américain a déclaré que les exercices dureraient 10 jours à compter du 11 septembre. Selon le département américain de la Défense, ces exercices visent à accroître le niveau d'interopérabilité des unités participant aux missions internationales de maintien de la paix. La Russie a exprimé son inquiétude face au prochain jeu de guerre. Le porte-parole du Kremlin a également critiqué le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, pour ses propos selon lesquels l'alliance de plusieurs décennies avec la Russie pourrait être considérée comme une erreur stratégique pour l'Arménie. Ces exercices sont les premiers du genre dans un contexte de tensions croissantes entre l'Arménie et la République d'Azerbaïdjan à propos de la souveraineté de la région du Haut-Karabakh. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique. Une cérémonie de deuil marquant l'arbaïn de l'imam Hossein, béni soit-il, et de ses fidèles compagnons s'est déroulée ce mercredi 6 septembre en présence du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, et des étudiants. À l'issue de cette cérémonie, l'honorable Ayatollah Khamenei a prononcé un court discours au cours duquel il a exhorté la jeunesse iranienne à suivre le chemin de l'imam Hossein, béni soit-il. La voix de l'imam Hossein, béni soit-il, connecte à la divinité et elle est exempte d'obstacles, a-t-il expliqué. Il est très important de maintenir cette connexion, ce qui nécessite détermination et endurance. Si vous faites preuve de persévérance, vous arriverez à faire installer la religion de Dieu, la vérité et la justice, a-t-il réaffirmé. Le leader de la révolution islamique a évoqué la présence glorieuse du peuple, en particulier des jeunes, à la procession d'Arbaïn de Najaf à Karbala, ainsi que dans d'autres villes du pays. Les jeunes sont une source d'espoir, tout comme vous avez fait preuve de détermination pour commémorer l'Arbaïn, soyez bien résolus à faire installer la loi divine et suivez toujours la voie de l'imam Hossein, béni soit-il, a-t-il préconisé. Des milliers de musulmans du monde entier ont effectué ce mercredi le pèlerinage d'Arbaïn vers Karbala en Irak pour prendre part à la cérémonie de deuil de l'imam Hossein, béni soit-il, petit-fils du noble prophète de l'islam, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Les pèlerins ont participé à des processions de deuil à l'occasion de l'Arbaïn, qui marque la fin d'une période de deuil de 40 jours suite à la mort en martyr de l'imam Hossein, béni soit-il, le troisième imam des chiites et de ses 72 compagnons dans la bataille de Karbala, dans le sud de l'Irak, qui a eu lieu en 680 après Jésus-Christ. Plus de 30 millions de personnes, dont des Iraniens, ont pris part à la procession. Le voyage à pied commence quelques jours avant l'Arbaïn, alors que les fidèles empruntent différents itinéraires vers les sanctuaires sacrés de Karbala. L'une des routes principales s'étend sur 80 km entre les villes saintes de Najaf et Karbala. C'est l'occasion pour les pèlerins de renouveler leur allégeance à l'imam Hossein, béni soit-il, l'icône de la lutte contre l'injustice, l'oppression et le despotisme. Les pèlerins sont accueillis et servis dans les moukeb, des tentes de fortune érigées le long des sentiers qui offrent gratuitement tout ce dont ils ont besoin pendant le voyage. Ils y trouvent de la nourriture, des boissons, un hébergement, des médicaments et d'autres services gratuits. Selon les médias irakiens, près de 13 000 moukabs ont été déployés sur le terrain cette année. Pendant ce temps, ceux qui ne pouvaient pas se rendre en Irak ont commémoré les cérémonies de l'Arbaïn dans leur ville, y compris à Téhéran. Les habitants de Téhéran ont participé à une marche symbolique qui les dirigeait vers le sanctuaire sacré du vénéré Abdulazim Hassani, béni soit-il, dans la ville de Rey, au sud de la capitale. Des marches similaires ont été également organisées dans d'autres villes iraniennes. Les autorités prévoient que 4 à 5 millions de personnes ont participé à ces cérémonies.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous, je vous prie. Alors, les forces russes ont repoussé 3 attaques des forces ukrainiennes, détruisant ainsi des drones visant Moscou. Par ailleurs, la Russie a attaqué une société aéronautique avec des missiles hypersoniques permettant de tenir à distance des avions ukrainiens. Donc avec ce qui a fait la Russie à montrer sa suprématie en conflit. Nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, Jory.
Des drones lancés par l'Ukraine contre Moscou ont été abattus ce mardi matin dans le district d'Istra, en périphérie de Moscou et dans la région de Kalouga, ont déclaré le ministère russe de la Défense et le maire de Moscou. Les forces russes ont repoussé 3 attaques des forces armées ukrainiennes dans la direction de Koupiansk, a déclaré à Spoutnik le porte-parole du groupe des forces russes Zapad, Sergei Zibinski. Au cours des combats dans la direction de Koupiansk, l'ennemi a mené 3 contre-attaques contre la position de nos troupes à proximité de la colonie de Serhivak. L'artillerie a repoussé toutes les contre-attaques, a déclaré le porte-parole. Les forces de défense aérienne russes ont également détruit un autre drone dans la région Tver, qui volait vers Moscou sans faire de victimes ni de dégâts, a déclaré mardi le maire de Moscou, Sergei Soubianine. Plus tôt dans la journée, Soubianine a déclaré que la force de défense aérienne russe avait détruit des drones dans les régions de Kalouga et de Moscou qui tentaient d'attaquer Moscou dans la nuit. Les forces de défense aérienne russes ont détruit des drones qui volaient en direction de Moscou au-dessus de la région de Kalouga, district d'Istra, dans la région de Moscou, a écrit le maire Sergei Soubianine sur sa chaîne Telegram. Mardi 5 septembre, les forces de défense aérienne ont abattu des drones d'attaque visant Moscou. Ils ont été détruits au-dessus de la région de Kalouga et du district d'Istra dans la région de Moscou, a déclaré M. Soubianine. Comme lors des précédentes alertes au raid aérien, les 3 principaux aéroports de Moscou, Domodedovo, Sheremetyevo et Vnukovo, ont été brièvement fermés par mesure de précaution. Les drones ont visé la capitale russe à plusieurs reprises au cours des derniers mois. La plupart d'entre eux ont été abattus en plein vol ou se sont écrasés après avoir dévié de leur trajectoire en raison du brouillage des signaux. Lundi, la défense russe a annoncé avoir anéanti un chantier naval ukrainien spécialisé dans la production de drones militaires aquatiques utilisés par Kiev pour attaquer des infrastructures civiles en Russie. Un escadron de drones russes s'en est pris à un chantier naval ukrainien utilisé pour assembler des drones maritimes à partir de composants importés, a annoncé le ministère russe de la Défense, repris par Sputnik. De plus, des avions russes de la flotte de la mer Noire ont détruit dans la nuit du 3 au 4 septembre 4 vedettes militaires rapides Villar Sea Force de production américaine qui transportaient des groupes de débarquement ukrainiens. Ces bateaux avaient été détectés dans la partie nord-ouest de la mer Noire. L'Ukraine a intensifié ses attaques de drones et de missiles sur le territoire russe après que son offensive terrestre, lancée au début du mois de juin, n'a pas permis de remporter de victoires significatives.
Eh bien, voilà pour le reportage. Alors, dans ce reportage, on voit très bien la suprématie de la Russie en conflit. À présent, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau deux experts des questions internationales, en commençant par M. Bernard Cornu, qui a accepté notre invitation depuis la France. M. Cornu, bonjour.
Bonjour à vous. Bonjour à M. Rouget.
Oui, justement, Alexandre Rouget, expert des questions internationales, qui a accepté notre invitation également depuis la France. M. Rouget, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, alors ma première question va s'adresser à Alexandre Rouget. Alors, nous parlons bien sûr de la crise entre la Russie et l'Ukraine. Où en est la situation, d'après vous, pour l'introduction du débat d'aujourd'hui? Je vous prie.
Mais la situation est catastrophique pour l'Ukraine et pour l'OTAN. Et tout ce que l'OTAN et l'Ukraine essayent de faire, c'est de gagner du temps et de faire diversion, encore une fois, puisque, comme vous l'avez dit en fin de reportage, c'est au moment où la contre-offensive ukrainienne piétine et s'avère une catastrophe manifeste. C'est à ce moment-là que Kiev déclenche des attaques de drones absolument désespérées sur le territoire russe, de manière à faire croire, d'une part, qu'ils ont la capacité offensive d'impacter les intérêts russes sur leur propre territoire, d'autre part, d'essayer de pousser les Russes à s'énerver et à déclencher des frappes un peu plus massives sur les infrastructures civiles et militaires de l'Ukraine. Donc ce sont des tentatives dérisoires d'intox, de diversion, d'essayer de faire croire qu'ils sont capables de prendre des initiatives, d'essayer de faire croire qu'ils peuvent frapper les Russes et tout cela est dérisoire puisque les Russes ne changent absolument rien à ce qu'ils ont prévu qui est de récupérer les territoires russophones et puis de récupérer aussi la Crimée et Sébastopol. A priori, ça s'arrêtera là. Donc voilà, ça montre simplement à quel point la Russie maîtrise la situation et à quel point l'OTAN est aux abois, tout simplement.
Oui, Bernard Cornu, les tentatives dérisoires, selon M. Rouget, est-ce que vous êtes d'accord, je vous prie?
Disons, ce sont des tentatives militaires de technologie nouvelle avec les drones, qui sont effectivement un moyen peu cher de tenter d'imposer des dégâts sur des sites, sur des bataillons, enfin, et donc sur tous les champs modernes de combat, il y a effectivement un emploi massif de drones. Ceci évidemment provoque des réactions de défense pour améliorer les techniques de détection de ces drones qui peuvent voler à basse altitude et qui sont petits. Voilà, il y a aussi des améliorations de ces drones pour qu'ils puissent être kamikazes, comme on dit, pour exploser, larguer des bombes, tuer des gens ou détruire des bâtiments, enfin infecter un peu des bâtiments. Mais effectivement, la Russie est un grand pays militaire et même si il a fallu réagir, disons, à ces innovations, il y avait peut-être un peu de retard. Ça se développe et de toute façon la Russie intervient systématiquement par des opérations un peu fortes sur des bâtiments ou des installations stratégiques dès que l'Ukraine réussit à faire une opération comme elle l'a fait sur le pont qui relie la Crimée au continent. Et donc voilà, donc je pense effectivement qu'on est dans un recul progressif de l'Ukraine face à la Russie. Et donc, On arrivera de toute façon à initier une négociation, même si l'Occident, la France, l'Europe et les États-Unis n'arrêtent pas de dire qu'il faut que pour les négociations s'ouvrent, que l'Ukraine ait un petit succès, hein, pour avoir, oui, disons, un semblant d'honneur qui lui permette de se mettre dans une négociation.
Absolument. Bernard Cornu, selon Alexandre Rouget, tout à l'heure, il a qualifié la situation de l'OTAN et de l'Ukraine de catastrophique. Est-ce que vous partagez cet avis, Bernard Cornu?
Toute guerre est catastrophique. Elle est catastrophique non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour la Russie, parce qu'elle coûte très cher et elle a dégradé son image dans certains pays occidentaux. Elle a dégradé ses capacités d'exportation de gaz. Mais les mécanismes des marchés de l'énergie sont tellement fondamentaux, tellement forts, que les prix ont augmenté et que pour le pétrole et le gaz, et donc la Russie a pu compenser les pertes en quantité, en flux d'export par des rentrées monétaires plus importantes et aussi une diversification de ses clients qui sera tout simplement utile pour l'avenir. Mais la guerre est aussi catastrophique pour l'Occident et pour l'OTAN parce qu'il s'agit d'une guerre sur un territoire européen. Il s'agit d'une mobilisation très importante de moyens financiers, militaires et technologiques de la part des Occidentaux qui se sont unis comme un seul homme petit à petit pour prendre une position de principe au lieu de continuer la négociation qui avait été entamée par la France avec un peu de courage, mais ceci n'ayant pas été soutenu par certains pays, à la fois les pays du nord de la Baltique, la Pologne et aussi les États-Unis, qui ont eu intérêt à continuer à fournir des armes à l'Ukraine progressivement, non pas décisivement, non pas jamais décisif, mais progressivement pour entretenir cette guerre. Donc, absolument, ceci est une catastrophe pour le monde entier.
Absolument. Alexandre Rouget, alors selon Bernard Cornu, la continuation de ce conflit est au profit de tout de même de certains pays qui n'hésitent pas à montrer qu'ils ne sont pas tellement d'accord avec des négociations qui mettraient fin à ce conflit. Qu'en dites-vous?
Ce à quoi on assiste, en fait, mais c'est un certain jeu de dupes. Je pense que beaucoup de monde est mal informé par rapport à ça. Dès le lendemain du début de l'opération spéciale russe en Ukraine, le 24 février 2022, dans les jours qui ont suivi, Volodymyr Zelensky était prêt à négocier avec les Russes. Il y a une délégation ukrainienne qui a rencontré les officiels russes dans un pays neutre, ce n'était pas en Russie, je sais plus où c'était, mais dans les jours qui ont suivi le début de l'opération spéciale, les négociations ont échoué et au retour de la délégation ukrainienne, l'un des membres a été abattu, a été assassiné, on ne sait pas de quoi. Ce que j'essaie de dire, c'est que qui veut la guerre en fait depuis le début, c'est pas la Russie, c'est même pas Zelensky.
Oui, Alexandre Rouget, poursuivez, je vous prie. Malheureusement, notre liaison avec Alexandre Rouget est coupée. Je m'adresse à M. Bernard Cornu. Alors, M. Cornu, vous avez évoqué tout à l'heure les États-Unis qui fournissaient des armes très sophistiquées à l'Ukraine. Est-ce qu'on peut soupçonner que les États-Unis sont derrière ce conflit? Est-ce que ça profite aux États-Unis, ce conflit?
Qu'ils sont derrière, je ne peux vraiment pas l'assurer. Je suis loin d'être complotiste, mais leurs intérêts, effectivement, étaient d'affaiblir la Russie. Pour que faciliter leur concentration de lutte commerciale et militaire, enfin stratégique envers la Chine. C'est sûr que, par contre, on sait par l'histoire que des agents américains ont soutenu, des actions américaines ont soutenu la révolution de 2014, une sorte de coup d'État un peu pas très clair, qui a fait aussi pas mal de victimes. Et qui a fait que l'Ukraine ensuite a fait une modification constitutionnelle pour réaffirmer qu'elle voulait reconquérir la Crimée et entrer dans l'OTAN. Donc ceci était une provocation de la Russie et poussait la Russie à prendre les devants comme en 1914 l'Allemagne a dit à un moment, le premier ministre allemand, le chancelier, mieux vaut maintenant que plus tard. En fait, la situation Les actions américaines ont poussé, et de l'OTAN ont poussé l'Amérique, la Russie, dans un coin, disons, pour la pousser à prendre des décisions d'envahir l'Ukraine. Et donc, pour continuer ce qu'a dit tout à l'heure M. Rouget, il a été interrompu, on ne l'a plus entendu, mais effectivement, je me souviens aussi très bien que dans les premiers jours après la guerre, la déclaration de Zelensky était très positive et il semblait à demi-mot accepter l'idée de référendum sur les territoires occupés par la Russie, la Crimée, et les territoires, disons, qui étaient en guerre, en lutte séparatiste militaire avec le gouvernement central d'Ukraine. Et donc, moi, j'avais remarqué effectivement qu'on avait là l'ouverture possible d'une négociation pour que ce différent territorial profond, ce différent régionaliste profond, soit arbitré en fait par des référendums sous une supervision internationale, comme ça a été fait dans d'autres occasions. Oui. Et l'occasion a été perdue par le relancement, par le soutien à l'Ukraine au point de vue militaire et stratégique.
Absolument. Bernard Cornu, malheureusement, notre liaison n'est pas encore faite avec M. Rouget. Je m'adresse toujours à vous, M. Cornu. Alors, selon beaucoup d'experts politiques, les États-Unis ont l'intention depuis très longtemps, depuis des décennies, d'affaiblir militairement la Russie et certains pays même de l'OTAN. Et avec ce conflit, est-ce que l'intention donc des États-Unis d'affaiblir militairement la Russie a été donc réalisée ou au contraire, la Russie a montré une suprématie visible donc vis-à-vis donc de l'OTAN et de l'Ukraine, et aussi montré aussi son armée. Que pensez-vous, je vous prie?
La Russie a montré son armée, elle l'avait montré de toute façon ailleurs, notamment en Syrie. Mais là encore une fois, c'est vrai qu'une guerre pousse à innover au niveau technologique, à concentrer les efforts économiques sur les armements. Mais ceci n'est dans l'intérêt de personne. Et moi, je dénonce cette poussée de l'OTAN qui avait promis, on le sait, de ne pas avancer vers l'Est et en fait qui est avancée vers l'Est parce que aux États-Unis, les gouvernements ont de la peine à résister aux pressions de leurs services secrets qui sont très financés, aux pressions de leurs militaires aussi qui sont source de profits énormes. Et donc, c'est tout ce système d'influence par les systèmes militaires, militaires ou industriels des États-Unis et aussi d'autres pays, puisqu'on a souvent ça aussi en Europe aussi, mais à des niveaux peut-être d'influence moins fortes. Ceci est très dommageable pour l'ensemble de l'humanité. Les États-Unis en souffrent aussi, en souffriront aussi, parce que leur dette est immense et c'est leur dette qui permet d'avoir autant de services de renseignement et dont on ne sait que très longtemps après toutes les méfaits, toutes les turpitudes qu'ils ont commis dans ces révolutions oranges diverses dans les différents pays.
Oui, absolument. Donc, de ce que vous dites, donc, on ne peut pas espérer pour demain donc, des négociations directes qui aboutiraient à la paix entre la Russie et l'Ukraine, car certains pays, dont les États-Unis, ne souhaitent pas la paix. Que pensez-vous ?
Ils ne souhaitent pas la paix, mais la population ukrainienne et la population européenne souhaitent la paix et souhaitent qu'on reprenne la négociation. Alors c'est vrai qu'en Europe, il y a une différence entre les pays du Nord, et du Grand Nord, près les pays baltes, la Pologne, et les pays un peu plus du Sud, qui se sentent moins concernés par cette région de l'Est de l'Europe. Mais je pense et je souhaite que les négociations soient reprises et qu'on applique des principes de justice internationale. Et ceci sera un exemple, d'ailleurs, pour les appliquer ailleurs. Où, comme on le sait, en Palestine, il y a une occupation très longue, très ancienne, et il faut aussi la traiter par des processus internationaux. Ça sera au Conseil de sécurité de trancher, ou bien d'un nouveau système plus juste, dans lequel les grandes puissances ne sont pas à l'abri d'une justice internationale qui pourront régler ces conflits territoriaux par des référendums ou par des évolutions dans chaque pays du système constitutionnel pour mieux prendre en compte les différences régionales ethniques et linguistiques qu'on trouve dans beaucoup de pays. C'est le cas de l'Ukraine avec la partie russophone à l'Est, c'est le cas de l'Irak avec les parties kurdes, c'est le cas de la Syrie avec les parties kurdes, c'est aussi le cas de la France avec la Corse, dans lequel le Parlement régional corse avait demandé à la France officiellement de pouvoir parler corse dans leur débat à l'Assemblée régionale corse, et ceci a été refusé parce que la Constitution française ne le permettait pas, a-t-on dit. Donc en fait, il faut aussi combler en France, modifier cette Constitution pour qu'elle soit beaucoup plus ouverte aux différences régionales et linguistiques. Et ceci serait un exemple pour ces pays, pour ces problèmes en Ukraine, en Syrie, en Irak, et d'autres pays dans le monde. On a vu ça aussi au Sri Lanka, on a vu ça en Indonésie. Il faut que les constitutions prennent mieux en compte cette diversité régionale, ethnique et linguistique.
Oui, mais M. Bernard Cornu, beaucoup de crises demeurent dans le monde entier que vous avez évoquées, certaines bien sûr, mais vous suggérez à quelle organisation d'avoir donc une constitution juste et équitable pour régler ces problèmes. Ce n'est pas pour demain, n'est-ce pas?
Ce n'est pas pour demain, mais il faut que ce soit un espoir. Il faut pousser à ça au niveau du Conseil de sécurité. Il faut que les règles de la charte de San Francisco, qui est ancienne, soient rénovées. Et ceci se fera sous pression des regroupements qui existent, comme celui des BRICS, qui vient de s'élargir, on le sait. Le groupement de la coopération de Shanghai, le groupement ancien des non-alignés, qui a regroupé un très grand nombre de pays. Et tous ces regroupements, en fait, regroupe une très grosse majorité de la population mondiale. Donc il faut qu'elle puisse s'exprimer, faire pression pour demander des réformes du système international de justice. Il faut que plus personne ne soit à l'abri d'une justice pénale internationale.
Mais les grandes puissances, Bernard Cornu, qu'en faites-vous de ces grandes puissances qui ne laissent pas, avec leur lobbyisme, donc de faire avancer les choses et de créer des crises partout dans le monde?
Si elles ne le laissent pas faire maintenant, elles seront forcées de le faire par un mouvement de rébellion populaire, d'expression dans le monde, par des personnalités qui arriveront à prendre la parole et parler, à dire qu'il faut faire cette transition. Ça se passe comme on y voit en France ou dans n'importe quel pays, quand le pouvoir résiste à faire des réformes demandées par une grande majorité de gens, dans le cadre d'un mouvement populaire, on a ensuite soit un coup d'État, soit une révolte qui oblige le gouvernement en place à faire ses réformes constitutionnelles. Et la constitution du monde actuellement, c'est la charte de San Francisco, qui a été écrite par les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, par des puissances nucléaires, ou qui étaient à l'époque au seuil nucléaire. Et donc, elle ne prend pas en compte les intérêts de la majorité de la population du monde, et dans sa diversité ethnique, religieuse et tout ça. Alors que le sentiment de justice, il est partagé. Tout le monde, dans le monde entier, dès qu'on a conscience, on a besoin de justice et on considère que c'est une valeur suprême. Et il faut donc qu'à partir de cette réforme de la justice internationale, on puisse réformer la police internationale. Ça a été prévu à San Francisco, mais effectivement, il n'y a pas du coup d'état-major des Nations Unies qui puisse exercer la force, si le droit, quand on a dit le droit international, ou quand on a redit le droit international contre des violations actuelles du droit.
Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue depuis Vaucluse, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci,
merci.
Et un pardon à M. Alexandre Rouget, car notre liaison a été coupée. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, M. Rouget. Quant à moi, je vous laisse toutes et tous à la garde de Dieu. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
La voix de la lumière.
Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange au prophète de la paix et de la clémence, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, nous vous présentons la lecture, la traduction et l'exégèse des versets 11 à 14 du chapitre 46 du Noble Coran, la Sainte Sourate Al-Ahqaf. Restez avec nous jusqu'à la fin de la Voix de la Lumière d'aujourd'hui. Dans notre précédent programme, nous avons lu des versets du Noble Coran qui nous ont appris qu'au jour du jugement dernier, les choses et les personnes que les égarés avaient prises pour des divinités deviendront leurs ennemis et nieront leurs fausses adorations pour elles. En effet, malgré ce qu'ils songeaient pendant leur vie, ces fausses divinités étaient parfaitement incapables de faire quoi que ce soit pour eux, tant dans cette vie sur la terre que dans la vie éternelle dans l'au-delà. Les mécréants et les pécheurs prennent les versets du Saint-Coran pour des inventions du messager de Dieu, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Dieu le Très-Haut dit à son messager de prévenir les mécréants et de leur dire que Dieu sera le seul témoin entre lui et eux. Il est pardonneur et miséricordieux envers les croyants et il sera sévère envers les mécréants. La vérité divine n'a nullement besoin de la confirmation et de l'approbation des païens. Dieu le Très-Haut dit à son noble messager, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, de dire aux gens qu'il n'est qu'un messager élu par Dieu le Très-Haut. Dans ce programme de la Voix de la Lumière, écoutons d'abord le verset 11 de la Sainte Sourate Al-Ahqaf, puis nous vous en donnerons la traduction.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم.
Et ceux qui ont mécru dirent à ceux qui ont cru, si ceci était une bonne religion, les pauvres ne nous y auraient pas devancés. Et comme ils ne seront pas laissés guider par lui, ils diront, ce n'est qu'un vieux mensonge. Les pauvres, les démunis et les esclaves étaient parmi les premiers qui ont cru à l'appel du messager de Dieu, le vénéré Muhammad, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Les païens de la Mecque disait au prophète que si l'islam avait été une bonne religion, les pauvres et les esclaves n'auraient pas devancé d'autres gens à y croire et à s'y soumettre. Ils se détournaient donc de la vérité et ils accusaient le messager de Dieu de mensonge. Ce verset nous apprend que l'orgueil et le sentiment de supériorité sont des racines profondes de la mécréance et de la désobéissance envers Dieu. Aux yeux de Dieu, les richesses de ce monde et la situation sociale ne sont pas des éléments de supériorité des uns sur les autres. Devant Dieu, tous les gens sont égaux. La piété et la foi sont en fait les seules distinctions qui pourraient exister parmi les humains. Voici maintenant le verset 12 de la Sainte Sourate Al-Ahqaf.
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
Et avant lui, il y avait le livre de Moïse comme guide et comme miséricorde. Et ceci est un livre confirmateur en langue arabe pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. Pour répondre aux païens qui accusaient de mensonge le messager de Dieu, le vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants, le Coran souligne qu'avant le prophète de l'islam, la Torah avait été révélée par le Seigneur au vénéré Moïse, béni soit-il. La Torah était donc un guide et une miséricorde de la part de Dieu, le Très-Haut. De même, le noble Coran, en langue arabe, a été un guide et une miséricorde de la part du Seigneur. Ce verset nous apprend que la Torah originelle avait mentionné le nom du vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. En effet, les livres saints ont tous les mêmes origines, qu'ils soient en hébreu ou en arabe. Les livres saints sont des guides pour l'humanité, afin de conduire les croyants vers la lumière de la sagesse et vers le salut dans les deux mondes. Écoutons enfin les versets 13 et 14 de la sourate 46 du noble Coran.
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Ceux qui disent « Notre Seigneur est Dieu » et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Contrairement aux païens qui niaient la mission du prophète, il y avait des gens qui avaient cru à l'appel du vénéré Mohammed, que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants. Il disait que Dieu le Très-Haut était leur seul et unique maître. Ils ont pris le droit chemin du salut éternel et ils n'ont eu peur de rien sur cette voie. À ces gens-là, Dieu le Très-Haut promet la demeure au paradis céleste où ils vivront éternellement. Ces versets du noble Coran nous apprennent que la foi ne suffit pas pour assurer aux croyants le salut éternel, car ils devront accomplir aussi les bonnes œuvres et faire preuve de l'action effective sur le chemin de la foi. Ceux qui ont cru n'ont jamais peur de rien sur le droit chemin de la religion. Chers auditeurs, ici s'achève la voie de la lumière d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous vous présenterons la lecture et l'exégèse d'autres versets du chapitre 46 du noble Coran, la sainte sourate Al-Ahqaf. D'ici là, nous vous confions toutes et tous à la garde de Dieu. Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur onde courte, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.